13h03, on est de retour dans Trudeau Landry. Beaucoup, beaucoup de réactions 25226. Vous êtes en feu. Je rappelle aussi ce que tu disais, Jérôme. Hein, si des fois vous voulez ajouter quelque chose, on parle d'un sujet, vous avez une expertise particulière ou une histoire que vous voulez raconter, gênez-vous pas, là, appelez Alex 70-9330 et qui sait, on va peut-être en discuter avec vous en ondes, ou Alex, des fois, peut nous rapporter vos propos aussi. Bref, beaucoup de réactions 25226. Et je suis pas surpris, mais beaucoup de gens qui disent qu'ils sont d'accord avec toi, entre autres. On notait, Nico et moi, qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Pour une fois, je suis d'accord avec toi, Jérôme. »
Ben, c'est tous les anti-vaccins qui écrivent.
Hey, tu t'étouffes, étouffe-toi pas de même. Mais bref, c'était quand même un débat qui était intéressant. Puis je le répète, là, je dis pas que c'était du génie que ce jeune-là soit là. Je trouve juste qu'on saute un peu trop aux conclusions et qu'on décide à sa place son niveau d'anxiété. Mais c'est vrai qu'il faut que nos jeunes soient heureux dans la vie.
Oui, ils ont essayé de faire un show. Pas, puis, c'est ça la télé aussi.
Bon, puis il y a des gens qui ont aimé ça, puis il y a des gens qui n'ont pas aimé ça. Alors, c'est quoi? Ils ont probablement réussi parce que si tout le monde était indifférent, ça veut dire que t'as manqué ton
coup.
Or, il y a des gens qui ont aimé ça, des gens qui ont
enfant,
aimé ça.
C'est un enfant de 11 ans. T'sais, je comprends que c'est
parents. Qui a juste été à la TV pendant 20 secondes. Je veux dire, ils n'ont pas fait faire des folies non plus.
Non.
Bref. On aime ça vous divertir, vous faire rire. Là, je consigne depuis le début de l'émission, on a parlé de politique, puis on vient de parler de l'utilisation d'un jeune, l'éco-anxiété, puis j'ai envie aussi qu'on change les idées puis qu'on ait du fun, mais en même temps, je m'en voudrais de pas revenir sur un sujet qui est assez lourd, mais je considère qu'on n'a pas le droit de passer outre. On n'a pas le droit de faire comme si ça n'existait pas. On n'a absolument pas le droit d'oublier. On doit se rappeler. On doit se questionner. On doit se révolter. Et je vous dis tout de suite, je fais un parallèle. Je pars avec ma conclusion. Je vais faire un parallèle avec l'écœurantite qu'on peut avoir de certaines mesures, du passeport vaccinal, des gens qui ne veulent pas se faire vacciner et tout ça. Puis je me dis... Des fois, ce serait peut-être pas mauvais qu'on remette les choses en perspective et qu'en parlant des choses qui nous écœurent, à quel point on est tanné, puis notre quotidien qui n'est pas le même, on se rappelle ce qui s'est passé au début de la pandémie. Qu'on se rappelle qu'on mette tout ça en perspective avec les atrocités que des aînés ont vécues. Et si vous avez pas suivi, parce que je trouve que ça n'a pas pris beaucoup de place dans l'actualité, je regardais juste sur la page de la Presse Plus, l'article dont je vais vous parler était rendu en bas de page.
On passe vite à d'autres choses, hein? On oublie vite, puis on passe vite à d'autres choses.
Si je vous dis CHSLD, Aaron, évidemment, vous vous souvenez de ça. Je dis pas que les gens ont tout oublié, mais on se lève pas le matin en y pensant, mais le CHSLD, Aaron, qui a marqué les esprits au mois de mars 2020, je vous rappelle le bilan, 47 résidents qui sont décédés au CHSLD Aaron lors de la première vague.
Et là, c'est l'enquête. Pas juste décédés, c'est circonstances.
Exact. Aussi, et là, c'est l'enquête publique de la coroner Jeanne Kamel qui a débuté hier. Et on nous a raconté le début, la chronologie des événements, c'est-à-dire au moment où il y a eu une prise en charge par les autorités du CIUS. Et à commencer par la docteure Larente, qui, elle, était en réunion de la cellule d'urgence et qui reçoit un message texte d'une médecin qui est sur place à Aaron et qui dit SOS. SOS. Comme un pilote qui envoie un appel de détresse ou quelqu'un qui est perdu en forêt. Ou cette médecin-là, à Aaron, envoie un message texte qui dit SOS. Et là, prend contact avec elle, se rend compte que les ressources humaines sont au courant que ça fait 2 jours qu'ils cherchent du monde, que les gestionnaires du CHSLD disent « on n'a plus de monde, les gens ont déserté ». Et cette médecin-là, qui mérite un prix, là, elle et son autre collègue, Martine Daigneault, qui était une infirmière de formation, qui a des fonctions administratives, ils se sont dit, on va y aller. C'est le dévouement que ça prend, les autres sont post-administratifs dans un hôpital, puis ils disent, regarde pas bien, on va y aller. Et je vous lirai pas le texte au complet de Gabriel Duchesne, mais je vous invite à aller le lire. Je vous invite à aller le lire parce que ce qu'on y lit, là, c'est dur à lire. J'imagine encore plus à entendre, là, parce que c'est les premières personnes qui se sont rendues, qui ont témoigné hier, mais à commencer par l'odeur putride dans l'ascenseur en arrivant. Là. Pas en rentrant dans une chambre, ou dans l'ascenseur. L'odeur qui s'était emparée, les planchers souillés.
Les croûtes, la croûte aussi, les blessures, tu sais, la croûte sur les jambes des bénéficiaires qui étaient là. Les bonbonnes, tu sais, c'est pas un détail physique, mais tu sais, les bonbonnes d'oxygène vides et rouillées. Donc, on n'était pas prêt à donner de l'oxygène aux, aux bénéficiaires.
Je vous lis juste un extrait, OK? parle d'un patient. Sous lui, le cerne d'urine est devenu noir tellement il y est depuis longtemps. Le matelas est imbibé. Pour la plupart, ils étaient pleins d'urine et de sel. Ils avaient les ongles trop longs et sales. J'ai remarqué des pansements inadéquats sur des plaies qui avaient suinté. Certains bénéficiaires ont les parties génitales couvertes d'une épaisse couche de crème. En dessous, la peau est brûlée. Quand on essayait d'enlever ça, on risquait d'enlever la peau. C'est ça qui s'est passé, là. C'est ça qui s'est passé. Et il y a peut-être des gens qui s'en souviennent parce que ça avait fait beaucoup réagir, entre autres, dans le journal de Montréal, le journal de Québec, quand j'avais écrit là-dessus. Mais moi, j'ai une grand-mère qui était au CHSLD de La Salle, qui a été un de ceux qui a défrayé la manchette parce qu'à un moment donné, pendant plusieurs jours, quand les proches des résidents appelaient pour avoir des nouvelles de leur famille, il n'y avait pas de réponse. Il était même pas capable de répondre au téléphone. Il y a eu des dizaines de morts. On savait pas ce qui se passait. Moi, j'avais une grand-mère qui avait 91 ans, qui a chopé la COVID, qui était là. Et qu'on n'a jamais eu parce qu'elle avait, malheureusement, elle avait pas toute sa tête. Ma grand-maman est décédée depuis ce temps-là. Mais je sais pas si c'est ça qu'elle a vécu. Et juste de penser qu'elle a pu vivre le dixième de ça, j'ai mal au cœur. J'ai envie de pleurer, j'ai envie de rager, j'ai envie de crier. Alors, quand je vous dis, des fois, il faut remettre les choses en perspective. Je comprends le passeport vaccinal, puis c'est pas le fun de sortir notre téléphone, puis des choses comme ça, moi, je veux plus jamais que ça se reproduise. Par contre, ce que je vais te dire, Jérôme, réitérer pour la énième fois, je veux, j'exige, j'insiste, je suis prêt à me battre pour qu'il y ait une Christie d'enquête publique sur ce qui s'est passé.
Ouais.
Parce que là, on a appris dans les derniers jours qu'il n'y aura pas d'accusation, Aaron. Là. Il n'y aura personne qui va être
tenu. Parce que la police est allée. Je me souviens, ça sort un samedi matin, cette affaire-là. Puis le SPVM s'est ramassé sur le parking. Ils sont entrés à l'intérieur. Là. Mais ça, c'est épouvantable qu'il n'y ait pas d'accusation. Là. Mais il y a quelque chose de systémique aussi, Joe, parce que c'est un peu comme les hôpitaux. Je veux dire, la situation à CHSLD, elle existait. La situation pénible, elle existait avant aussi. Combien de fois on a parlé des conditions de vie? Des aînés qui sont, tu sais, qui sont hébergés là, tu sais, des gens qui sont malades, pas de bain, pas de repas adéquat. On te sert un repas tiède à 4h15. Ah ouais, toi, soupe. Tu sais, on a parlé de ça souvent avant. Là, il y a une décision qui a été prise de mémoire à cette époque-là. C'est passé tellement d'affaires, mais de mémoire, on a pris des gens qui étaient dans des hôpitaux et on les a envoyés dans les CHSLD. On a pacté les CHSLD. De gens qui avaient peut-être pas nécessairement d'affaires là, ça a empiré un système qui était déjà à genoux, qui était déjà désuet, puis ça a donné ce que ça a donné. Ça, c'est un cas extrême, mais moi, je me souviens que l'hôpital général ici à Québec, c'était pas beau non plus. Là. C'est peut-être pas le niveau de Aaron, là, mais l'hôpital général ici, CHSLD, c'était pas chic, là, ce qui s'est passé là non plus. Là. C'est des lieux qui étaient pas faits pour... C'est un très, très vieil hôpital. Là, c'était des lieux qui n'étaient pas faits pantoute pour donner des soins à des gens qui en avaient besoin. Fait qu'il y avait déjà quelque chose de systémique là, avant que la COVID existe aussi. Là. Ça a juste empiré les choses.
Moi, je veux savoir ce qui s'est passé.
Ouais.
Et je comprends qu'il y a une commissaire là, à la santé, où, Mme Castonguay, qui va livrer des rapports. Puis il y a eu un rapport préliminaire. Là, d'ailleurs, la semaine dernière, il y a une première partie de ça qui a été publiée. Mais il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin. Puis j'ai envie de dire, puis c'est pas ça le but, mais j'ai envie de dire, ceux qui, par exemple, vont toujours nous accuser à tort d'être à la solde du gouvernement, puis on sait bien, vous êtes les porte-parole, puis je vous invite à aller réécouter, relire ce que j'ai pu dire à cette période-là, au début de la pandémie. Et je ne change pas un mot, un iota de ce que j'ai pu dire, parce que je suis pas en train de dire que c'est la faute à François Legault, ou à Daniel Mécan à l'époque, ou au Dr Arruda. Ce que je sais, c'est qu'à cette époque-là, ce qu'on nous disait en point de presse à la grande messe de 13h, et ce qui se passait sur le terrain, le manque de protection des personnes qui travaillaient dans le système de santé, les lacunes au niveau de la gestion de zones rouges, zones froides, puis du monde, comme tu dis, qu'on a chupé dans les CHSLD.
Puis on les a pitchés, là.
On l'a échappé. C'est une des pires tragédies de l'histoire du Québec. Ça n'enlève pas que depuis deuxième vague, troisième vague, je pense que le gouvernement prend des bonnes décisions dans l'ensemble, pas tout le temps, mais qui sont justifiées. Puis ça, je vais continuer à le défendre, oui. Mais je sais aussi que François Legault ne veut pas d'enquête publique et qu'en tant que citoyen, on devrait exiger qu'il y ait une enquête publique pour aller au fond de ce qui s'est passé, pour ne plus jamais que ça se reproduise.
Moi, je veux savoir pourquoi on a pacté autant les CHSLD. Ça, il y a plusieurs observateurs, des gens qui étaient dans le domaine, qui m'ont dit « c'est pas normal ce qui s'est passé là ». Il y a trop de gens qui ont été transférés des hôpitaux vers les CHSLD. tu me corrigeras, Joe, aussi, mais est-ce que c'est pas en lisant la Gazette que François Legault a appris ce qui se passait à Aaron?
Oui.
Je pense que le livre d'Alec Castonguay. Ouais, je pense que Alec Castonguay fait référence à ça dans son livre sur la crise. Ça, c'est pas normal non plus, là. Pas normal que le premier ministre. C'est dans l'état des choses que tu as décrit tantôt avec des. Tu sais, je répéterai pas tout, là, les plaidlis, les odeurs, les conditions épouvantables de patients abandonnés dans des chambres. Est-ce que c'est normal que le premier ministre apprenne ça dans The Gazette?
Ah non, c'est pas normal.
Le samedi matin que ça sort avec une enquête journalistique, c'est normal?
C'est
pas normal, ça non plus. Là.
C'est tellement pas normal que je peux même te dire, Jérôme, que j'ai été celui qui a annoncé publiquement que François Legault était pour participer au point de presse du samedi matin. Alors, souviens-toi, c'était le premier jour qui manquait.
Ouais.
Un point de presse, c'est sa première journée.
On était habitué à des points de presse à tous les jours.
Moi, je faisais l'analyse à LCN dans la journée.
Ouais.
Et ma première intervention du jour, je dis, François Legault qui sera pas là, bon, est-ce que c'est le bon moment ou quoi que ce soit? Et là, je reçois un message de l'entourage de François Legault qui dit, si tu veux l'annoncer publiquement, là, on va émettre un avis de convocation, le premier ministre va être là finalement à 13h. Et là, moi, mon premier réflexe, c'est de dire « Oh, François Legault va être là. » Il s'est peut-être rendu compte que c'était pas le bon moment. Et là, on m'explique en coulisses que ce que le premier ministre a eu comme information, parce que l'article était sorti, mais ils se sont rendu compte que ça allait beaucoup encore
c'est
plus
ça.
Loin.
C'est pas normal, ça,
que l'article disait, faisant en sorte que le premier ministre sortait finalement de du petit break qu'il était supposé prendre pour commander une enquête policière et
puis ma question, c'est qui fermait les yeux? Pourquoi le premier ministre n'était pas au courant? C'est sûr que lui, il peut pas voir ce qui se passe partout dans chaque chambre, dans chaque résidence, partout au Québec. Mais il y a des gens nécessairement qui savaient comment c'était à cet endroit-là, là. Puis que l'information s'est pas rendue. Il y a des gens qui savaient, qui ont fermé les yeux, puis qui s'en sont foutus. Je vais rester poli, là. C'est ça qui est intéressant. C'est ça qui serait intéressant à savoir d'une enquête.
Absolument. Bref. On va suivre ça de très, très près, l'enquête de la coroner Jeanne Kamel, même si on sait qu'il n'y aura pas d'accusation, parce que ça, c'était une enquête, c'est pas la même chose. Et là, c'est des recommandations qui peuvent ressortir du travail de Jeanne Kamel. Ça vient tout juste de débuter. On va suivre ça, évidemment, au cours des prochains jours, des prochaines semaines. OK, on va faire une pause. 25226, si vous voulez nous rejoindre par messagerie texte 670-9330 pour nous rejoindre par téléphone. On fait une pause.